17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver dans ce grand témoin spécial consacré à un géant de la culture, de la sociologie, de la philosophie, de l'histoire, un Algérien, pas comme les autres, Mohand Tazrout. Un enfant né à Zasgar en 1893 et mort en 1973, mais qui nous a laissé une œuvre considérable. Et pour parler de Mohand Tazrout, ce géant de la culture, ce géant de l'Algérie, Sadar Salam, merci Sadar d'être présent. Vous avez préfacé pas mal de ces ouvrages qui ont été réédités. On en parlera dans un instant. Et puis Hassan Zerawi, qu'on ne présente plus, chercheur au CNRS, sociologue, ami de beaucoup d'intellectuels, en particulier d'Abdelmalek Sayad et de Pierre Bourdieu, qu'on ne présente plus. Merci Hassan Zerawi d'être présent parmi nous. Votre présence se fait rare, mais quand elle est là, elle est précieuse et on va en profiter au maximum. Merci à tous les deux d'être là pour parler de Mohand Tazrout. Mohand Tazrout, qui est philosophe, qui est historien, qui est sociologue, qui est un germaniste reconnu et qui laisse derrière lui une œuvre considérable. Mohand Tazrout, qui n'est pas très connu, Sadar Salam. Vous le remettez un peu à la page, vous le ressuscitez aux yeux du monde à la fois médiatique, intellectuel et politique. Mohand Tazrout, c'est quelqu'un qui est extraordinaire. Il sort de l'ordinaire. C'est,
absolument. Il a eu ses moments de célébrité dans les années 30, quand il est devenu le chroniqueur sur l'Allemagne de la prestigieuse revue internationale de sociologie. Ce qui était Allemagne, c'était lui, avant même l'avènement de Raymond Aron. Et c'est quelqu'un qui a, dans le parcours, permet de revisiter l'histoire coloniale, notamment la politique scolaire coloniale, si on veut être équitable avec la colonisation a introduit l'école, mais lui, il a été au cours normal de formation d'instituteur adjoint, qui était différent de l'école normale de Bouzaria, qui était pour les Européens et les naturalisés. Et c'est le sentiment de la découverte des discriminations.
Il s'est naturalisé d'ailleurs à l'âge de 21 ans. Il avait 21 ans.
En 1914. Parce qu'il a enseigné pendant un an à Saint El-Had, vers l'ouest.
Dans l'Ouest.
Oui. Et donc c'était une école indigène. Lui, il était un indigène, diplômé du cours normal pour indigènes, affecté à une école indigène, mais dirigé par un Européen. Il est rentré en conflit, il a dit je ne supportais pas sa dictature, et il décide de remédier à ses discriminations en se naturalisant, ce qui lui a valu 40 ans de rupture avec sa famille très religieuse.
Mais au-delà de ça, ce qui est extraordinaire, et vous en parlez d'ailleurs dans une préface que vous faites sur un de ses livres, qui est l'Algérie de demain, vous avez des intellectuels qui sont intégrés, qui ont un avenir radieux, etc., ou simplement des enfants. Je veux parler bien sûr de Mohand Tazrout. On pourrait parler de Mahmoud Feraoun. On pourrait parler de Jean Mouvam Rouche. On pourrait parler de Kateb Yassine, de Haït Hamoud, qui était fils de marabout et qui avait une trajectoire qui était toute dessinée et qui, à l'âge de très très jeune, s'engage dans la lutte armée et devient patron de l'organisation spéciale. Ces gens qui sont entre guillemets intégrés, mais qui choisissent de rompre la rupture et qui rejoignent ensuite, on verra pour Mohand Tazrout, qui rejoignent le FLN, la lutte armée. Donc c'est extraordinaire cette capacité qu'ont ces gens à la fois d'avoir utilisé le cursus de la colonisation, les écoles, mais qui à un moment donné vivent, se disent non, ça c'est pas moi, ça c'est pas ma culture, je suis, voilà mes frères, voilà mon combat, voilà mon chemin. Mais c'est pas donné à tout le monde. Et Mohand Tazrout a eu ce déclic, cette conscience.
Moi, les engagements de Mohand Tazrout étaient purement intellectuels. Il était à l'écart de tout. La seule personnalité qui cite dans ses ouvrages théoriques, c'est Mohamed Chérif Sahli, qui avait fait des études de philosophie et qui l'a rencontré au quartier latin, mais il n'a été en rapport ni avec l'étoile nord-africaine, ni avec l'association des étudiants musulmans nord-africains. Ses engagements étaient intéressants. Il a joué la carte.
Mais c'était un spectateur avisé.
Très avisé.
Très avisé.
Oui, oui. Mais il a profité de son emprisonnement au camp du Croissant, à côté de Berlin, où il y avait trois...
Il avait été mobilisé pour la guerre 14-18, il a été fait prisonnier...
Blessé en 1915.
Voilà, il a été prisonnier et il a été déporté dans un camp.
Oui, dans un camp où il y avait l'émir Ali, le fils cadet de l'émir Abdelkader, qui était général de l'armée ottomane, et qui venait travailler au corps les prisonniers pour les dresser contre la France. Et d'ailleurs, moi j'ai le PV de son interrogatoire.
Il était en prison pour les radicaliser. Bon, ça c'est une digression.
Il leur faisait visiter une mosquée dans la région de Berlin, et il leur disait, est-ce que vous avez vu des mosquées en France? Il dit, jamais de la vie, donc l'Allemagne respecte l'islam mieux que la France. D'où la mosquée de Paris. Ils ont dit, il faut rattraper ce retard. Et on l'a interrogé longuement sur l'activité de l'amir Ali, à Vincennes. On a son dossier qui est épais, hein. Et il a appris l'allemand au camp, comme ça, en autodidacte. Et quand il a été libéré, il a fait l'objet d'un échange de prisonniers en 1917, à Lausanne. Il a demandé l'autorisation à l'attaché militaire du consulat de France pour qu'il s'inscrive à l'université de Lausanne. Il est rentré en conflit avec lui quand il lui a dit « je vais étudier l'allemand ». Il lui a dit « non, c'est la langue de nos ennemis ». Mais il a... À la fin de la guerre, il maîtrisait l'allemand.
Il est devenu prof d'allemand.
Après, il a fini sa licence à Strasbourg, puis à Poitiers. Et il a eu son premier poste à La Roche-sur-Yon, de l'autre côté en Vendée.
À vers Nantes
Sud de Nantes.
Au sud de Nantes.
Une région très pauvre, mais parce que sa femme était institutrice, la mère de ses enfants, était institutrice à La Roche-sur-Yon.
Arsène Zeraoui, vous êtes sociologue, voilà quelqu'un qui a fait partie en 1930 de la revue internationale de sociologie, un autodidacte qui apprend l'allemand, qui prend conscience tout seul, qui se détache des actes et des menaces de la colonisation. C'est extraordinaire, c'est un géant. Je sais que vous êtes amoureux de Mouloud Feraoun, de Kateb Yassin, de Jean Amrouche. Je sais que ces gens-là, ce sont quelque part des gens qui ont éclairé votre vie et vos actes et vos écrits. Ce Mohamed Tazrout, c'est un géant.
Oui, d'abord merci de l'invitation, Nasser. Et je salue aussi Kim qui est là, donc je souhaite la bonne année à Sohel et ceux qui nous écoutent. Effectivement, moi, Mohamed Tazrout, je l'ai croisé à la Bibliothèque Nationale.
En quelle année?
À Kayouf, dans les années 80, avant bien, je pense qu'avant que Sadek ne
soit mort. Il est mort en 1973.
Oui, oui, oui. Non, mais je veux dire, je parle de ses livres. Ses ouvrages quand j'allais à la bibliothèque de la rue Richelieu, où j'avais systématisé tout ce qui était écrit sur l'Algérie coloniale. Parce que, au-delà de mes recherches concernant les questions d'immigration, d'intégration et de discrimination, je m'intéressais beaucoup à la façon dont les colonisateurs avaient vu l'Algérie et les indigènes algériens, c'est-à-dire, pour ne pas dire, le peuple algérien. Et du coup, j'ai vu, effectivement, Mohamed Tazrout à plusieurs reprises, mais il n'a pas attiré mon attention outre mesure. C'est-à-dire, si, j'étais intéressé. Mais pour moi, il y avait d'autres priorités. C'est-à-dire que je voulais surtout connaître en profondeur le regard que les colonisateurs avaient posé sur le colonisé et la façon dont ils sont fabriqués un indigène imaginaire. Mais j'ai vu Mohamed Tazrout et j'ai laissé de côté. Et tout à coup, avec Sadek, grâce à Sadek, je reprends contact avec Mohamed Tazrout.
Effectivement, Sadek est un dénicheur, dénicheur.
Ah oui, oui, c'est un rat des archives. C'est un rat des archives, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire celui qui essaye de trouver les archives.
Il ravive la mémoire. Voilà, c'est une mémoire que beaucoup de gens veulent cacher pour des raisons avouées ou inavouées, mais lui, ravive.
Ah, tout à fait. Finalement,
il la rend actuelle.
Oui. Il fait un travail absolument remarquable d'archives. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup donc à ces questions de culture.
À votre avis, vous qui connaissez bien Pierre Bourdieu et Sayad, est-ce qu'il connaissait Tazrout?
Je ne pense pas vraiment qu'il connaissait Tazrout. Je ne pense pas, parce que Sayad, ce n'était pas quelqu'un qui s'intéressait outre mesure, à part être dans le bourdieusisme. Il n'avait pas cette curiosité élargie, bien que ce soit quelqu'un qui avait des intuitions géniales, mais pas du tout bourdieu non plus, parce que au fond, ces auteurs qui sont parfois importants et qui restent dans le silence des bibliothèques. Et on ne sait pas pourquoi, ils ne sortent pas. Et grâce à des gens comme Sadek, d'autres, mais il n'y en a pas beaucoup. Un jour, on les émerge vers la lumière alors qu'ils devaient être connus, Mohand Tazrout, bien avant. Là, cette démarche, en fait, ce qui est écrit aujourd'hui par Sadek, par d'autres personnes, fait partie de ce que j'appelle l'appropriation de la mémoire de l'immigration et de l'Algérie. Parce que Mohand Tazrout, c'est une figure à la fois de l'immigration et aussi de l'Algérie. Donc, c'est deux pays de la France, bien entendu, puisqu'il a été français. Voilà un parcours pour un sociologue, un parcours absolument passionnant. Donc, il naît dans un village qui s'appelle Tazrout, d'ailleurs. Et porte le nom. Et il va...
Tazrout, qui en kabyle veut dire le col.
Voilà, c'est ça.
Tazrout aussi... Alaya Tazrout.
Tazrout, c'est veut dire aussi la pierre. La pierre Tazrout, ouais, c'est aussi la pierre. Mais au fond, il apprend le Coran avec son père. Et puis, il va à l'école primaire française. Il a un parcours. Il fait l'école pour sa génération.
Coran, d'ailleurs, dont il aura fait une traduction... manuscrite qui est encore...
Elle est dans l'oubli, elle est dans le mystère.
On fait confiance à Sadar.
Oui, il va la retrouver.
Elle ne sera pas dans l'oubli longtemps.
Il faut James Bond comme Sadek pour pouvoir la retrouver. Et au fond, donc, ce que je regarde, c'est ce que je vois, c'était extraordinaire pour sa génération être déjà à l'école de Bouzaraïa, l'école normale de Bouzaraïa des instituteurs. Mais grâce à lui, effectivement, on apprend qu'il y avait, ça c'est pas une nouveauté en soi, mais que l'indigène, au fond, il était toujours considéré comme être inférieur et comme quelqu'un qui n'apportait rien. Donc il devait enseigner aux indigènes, c'est-à-dire de la sous-culture pour les indigènes dont on ne voulait pas qu'ils soient cultivés.
Bien à propos d'indigènes, Sadar Salem Kela, qui a préfacé aussi, qui a commis un acte aussi, qui a préfacé l'Algérie de demain, Sadar Salem, il parle de Mohand Tazrout, c'est désindigéniser.
Oui,
c'est la formule qu'il emploie.
On a utilisé
vous
cette formule.
Vous pouvez vous couper la parole.
Hein, on a utilisé cette formule désindigéniser parce que, au fond, au départ, Mohand Tazrout est un parcours singulier, un parcours exceptionnel, parce que comment cet homme qui a du génie, il faut le dire, comment il l'a fait en partant de sa condition d'indigène, condamné à être un berger et à devenir gardien de chèvres et de quelques rares chèvres ou de moutons. Voilà comment il perce, comment il va aller de l'avant, parce qu'il avait, de mon point de vue, bien que il ne le dit pas quelque part, il avait une soif d'apprendre, une curiosité à toute épreuve, et du coup, il sort de l'école normale, et comme l'a dit si bien Sadek, un instituteur, un adjoint qui enseigne pour les indigènes, donc il a compris, il y a quelque chose qui n'allait pas. Il s'était naturalisé, donc il a fait une rupture qui lui a valu beaucoup, la mise au banc. Chez les Kabyles, on les appelait les Mtourni. Même chez les Algériens, en général. Oui. Les Mtournis, c'est-à-dire ceux qui ont retourné leur veste et qui sont partis du côté français. C'est quand même, là, ça montre aussi le fait que les Algériens, les FMA, Français musulmans d'Algérie, étaient considérés comme des sous-citoyens. Donc, il a fallu se naturaliser pour devenir Français, et encore, Français peut-être pas traité complètement comme Français. Voilà, et voilà que il va comme l'a dit Sadek, quelqu'un qui ne connaissait pas l'allemand et qui se trouve à la bataille de Charleroi. C'est une occasion aussi de rappeler cette bataille d'août de 1914 où on avait lancé les tirailleurs algériens sans préparation. Ça a été une hécatombe, catastrophe. Et le seul qui sort blessé, je crois que Sadek, il a même dit, je suis l'un des rares à être survivant. Et ça nous apprend des choses.
C'était une vraie boucherie. On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Oui, grand témoin aujourd'hui, l'invité Mohand Tazrout, et qui mieux pour en parler, Sadak Salam, merci d'être présent, Hassan Zeraoui. Alors, Sadak Salam, Mohand Tazrout dit quelque chose que nous partageons tous, que moi j'ai dit, que je dis depuis des décennies, etc. La guerre d'Algérie n'a pas duré 7 ans, 8 ans. La guerre d'Algérie a commencé en 1830. Il le dit, Tazrout. Oui. Et il a cette capacité de dire que l'Algérie ne peut pas rester comme ça. Il dit, l'Algérie, un jour, il devra y avoir un gouvernement algérien dirigé par des Algériens. Et là, il en va balader toutes les formes de compromission, d'association, de schéma démocratique dans les années 58-59, où il voyait le colonialisme, vous voyez l'Algérie lui échapper. Et tout de suite, ils essaient, là, lui, il disait, non, l'Algérie, elle est en guerre maintenant depuis 130 ans, et donc il rappelle pas mal de choses, et il dit, à un moment donné, il parle de l'accession des Algériens africains à l'indépendance. Pour lui, c'est clair, l'Algérie, elle est en Afrique.
Oui.
Et il parle aussi d'une culture spécifique à l'Algérie, dans laquelle, bon, il y avait l'arabe, bien sûr, et dans laquelle la tradition orale berbère devait être sauvegardée. C'est ce que vous dites,
absolument,
en tout cas, dans l'Algérie demain.
Avec une proposition de réforme de la graphie arabe, pour faciliter la lecture. Avant d'écrire ce livre, sous pseudonyme, il avait peur. Ce livre a été publié à Monaco, hein. Il n'est pas à la Bibliothèque nationale.
Alors il appelait
l'Algérie de demain.
Moutawakil.
Moutawakil.
Moutawakil, ça veut dire celui qui fait confiance.
C'est ça, en Dieu.
C'est le nom. Celui qui fait confiance à Dieu ou qui a ou en qui Dieu a confiance.
Non, celui qui a confiance en Dieu.
Celui qui a confiance à Dieu.
Non, ça prouve sa très bonne connaissance de l'histoire de l'islam. Moutawakil, c'est le nom du calife abbasside qui a rompu avec le mu'tazilisme. Pour lui, l'assimilationnisme, c'est l'équivalent du mu'tazilisme. C'est pour ça qu'il a choisi ce pseudonyme.
Les mu'tazilites, on rappelle que c'est ceux qui ont introduit la notion de doute. Est-ce que le Coran est créé ou incréé ?
Très rationaliste.
Et donc ça, à l'époque, c'était déjà blasphémé de dire ça ?
Non. Oui, l'imam Ahmed, les Hanbalites, considéraient ça comme un blasphème. D'ailleurs, mais pour lui, il avait cette analogie. Et ça prouve sa bonne... Parce qu'il dit, lui, il dit, j'allais lire les manuscrits arabes de la rue Richelieu, dont tu as parlé, Hassan. Pourquoi ? Parce que il a ses premiers écrits contiennent les germes de ce que développera Edouard Saïd, orientalisme auxiliaire du colonialisme. Donc, déforme un peu l'histoire des indigènes. Il dit, nous avons une histoire de vainqueurs, depuis les Romains. C'est pour ça qu'il a écrit l'histoire politique de l'Afrique du Nord, en remontant jusqu'à... Il a dit, nous connaissons Massinissa par ce que le vainqueur a écrit sur lui, pas par ses auteurs à lui. Et lui, dès le début, son engagement était purement... Il a écrit, par exemple, L'État de demain, en 1936. Moi, j'ai connu Jacques Fournier, qui était secrétaire général adjoint de l'Élysée, son gendre, marié à sa fille aînée Jacqueline. Il m'a dit, pour quelqu'un comme moi, le livre de mon beau-père n'apporte rien du tout. L'État, ce qu'on attendait de l'État en 36. Et il met un passage sur la colonisation. Il a dit, l'État devrait s'occuper prioritairement de ces indigènes colonisés, mais il n'avait pas une conscience aiguë de ce qu'est une situation coloniale, comme m'a dit Balandier. Balandier a dit, situation coloniale, c'est spécifique. Il faut l'étudier
à
part.
Mais quand même, Mohand Tazrout, il signe l'appel des 61. Et
jusqu'en 45, ouais, il a écrit un grand texte sur le 8 mai 45, où il minimise la gravité. Et lui, il a réagi
enseignant. Il écrit au général Hubert, je crois.
Tuber, qui a mis son texte.
Après les massacres de
Oui, il les a minimisés. On ne connaissait pas les chiffres. Il n'était pas en Algérie. Il a dit, la France a massacré les Vendéens. Alors, elle vient de refaire la même chose en Algérie. Mais on est passé à autre chose. Et il a comparé avec la Creuse. Il a dit, c'était un département arriéré. Mais grâce à une politique scolaire, on a rattrapé le retard. Et la France a la possibilité de faire la même chose pour l'Algérie. Déjà, mais ce qui l'a retourné, c'est l'appel des... Parce que les 61 de septembre 55, c'était des modérés, ce qu'on appelait les évolués, sur lesquels Soustelle comptait pour une constituer une troisième force.
Alors que là, ils ont refusé cette troisième force. Ah bah, et ils appelaient à l'indépendance inéluctable de l'Algérie. Et là même, vous dites dans votre préface, Mohamed Tazrout compare le GPRA au gouvernement de la France libre.
Absolument.
Quel chemin ? Quel
là,
chemin ?
Là, ça, là, il a rompu quel avec l'intégration. Parce qu'il lisait aussi, pour fixer les idées, en décembre 1956, il y a eu un seul bombardement aérien en Kabylie, a fait 950 morts. C'est quand même beaucoup.
C'est énorme, c'est énorme.
Et pourquoi ? Parce que c'est la création des zones interdites. Moi, j'ai les dossiers des zones interdites. Il faut faire monter les bulldozers ou des explosifs pour détruire les... Or, quand il n'y avait ni piste, ni chemin muletier, on a actionné l'aviation pour détruire. Ça fait 950 morts dans zéro combattant. C'était les bergers, les femmes qui allaient chercher. Et ça l'a choqué. Et lui, il croyait à la mission civilisatrice de la France pendant très longtemps.
Le pouvoir colonial refaisait le match qu'il avait fait de 1830 à 1860-70 avec les pogroms, les exterminations, les enfumades, etc. Ils reproduisaient, ils se sont dit ça a marché pendant 30-40 ans au début, après ils ont fait la
cause. Ils ont repris avec
et donc ils ont dit on va refaire ça
mais l'eau
avait coulé sous les ponts.
L'histoire politique de l'Afrique du Nord, c'est un brûlot anticolonialiste où ils n'hésitent pas à comparer avec ce qui choque les historiens aujourd'hui, avec le nazisme. Il a dit, s'il n'y avait pas eu la déportation des Juifs, l'occupation allemande en France aurait été supportable.
Et ce que vous dites, c'est que non seulement il signe l'appel des 51, il compare le GPRA à la France libre, mais il contribue intellectuellement. Vous le dites, il a une contribution à l'organisation intellectuelle du mouvement de libération.
Absolument. Il a dit, ce sont des moudjahidines admirables. Moi, j'ai dépassé l'âge. Je fais de l'ijtihad. C'est la même racine. L'ijtihad, c'est coopérer par l'esprit. Voilà. Et il a proposé des institutions d'une Algérie pluraliste. L'Algérie de demain est écrite en 59. Je crois même avant le discours sur l'autodétermination du général de Gaulle, qui est du 16 septembre. Et il avait peur des représailles. Même sa famille, Fournier, m'a dit, personne n'entrait dans son bureau. Et on ne savait pas qu'est-ce qu'il écrivait comme lettre. Il m'a dit, moi, je sentais qu'il était sympathisant communiste. Mais il n'a jamais dit pour qui il votait.
C'est pour ça qu'il signait sous un pseudo, quoi.
Oui, mais il a dit, moi, j'apporte ma pierre à ce combat en proposant une Algérie. Il prévoyait que les pieds noirs allaient rester en Algérie. C'est pour ça qu'il a dit, il faut un bilinguisme, français-Algérie, et ne pas brimer la tradition orale berbère.
Hassan Zerawi, le chemin que fait Mohamed Tazrout, si on regarde Frantz Fanon, par exemple, à un moment donné, ça se croise, non ?
Oui, ben, Frantz Fanon, ça se croise, mais seulement Frantz Fanon, lui, avait un poste, il était psychiatre, antillais, à Blida, et il a vu de ses propres yeux comment le colonialisme détruisait l'être, hein, l'être et son âme.
L'être même, à l'extérieur et à l'intérieur.
Ouais, à l'intérieur et à l'extérieur. Bon, Mohamed Tazrout a fait un chemin différent quand même, parce qu'il se naturalise d'abord, il devient, comme on le voit, germaniste après avoir été mis en prison et qu'il profite de cette occasion, ce qui est absolument incroyable parce que peu d'êtres humains sont capables, en étant prisonniers, de se mettre en plus à apprendre une langue. Et il apprend cette langue qu'il perfectionne quand on l'envoie en Suisse pour pouvoir devenir un germaniste connu et reconnu.
Il traduit un tas de choses.
Oui, il traduit Spengler, le déclin de l'Occident, qui reste encore un livre
il
aujourd'hui.
Il est réédité chez Gallimard. Oui,
alors que ça jonctoie avec Emmanuel Todd qui aujourd'hui parle du déclin de l'Occident.
Non, mais pour que... Bon, parce qu'il y a des... des jeux, par exemple, critiquent Mohamed Tazrout en disant c'est du discours, etc. Mais il ne sait pas que pour que Spengler fasse confiance à Mohamed Tazrout, c'est qu'il l'a jugé.
Ils étaient copains.
Il a été le voir.
Ils étaient copains.
Il a été le voir à Franck, à Munich.
Et pour qu'il lui fasse confiance et pour que Gallimard, qui est un éditeur de la place de Paris, l'un des plus importants, si ce n'est le plus important, fasse confiance à Mohamed Tazrout et que Payot, par la suite, quand il traduit encore un autre auteur allemand sur...
Bockelmann.
Bockelmann sur les États islamiques, ça veut dire que Mohamed Tazrout, il a d'abord fait le chemin de l'assimilation. il a continué dans sa trajectoire. Sa
prise... Mais son psychose est toujours en rébellion. La preuve, c'est que la Seconde Guerre mondiale, il est en résistance.
Bien sûr.
Il est contre l'oppression. Donc, il peut pas hiérarchiser les oppressions. L'oppression du nazisme, c'est l'oppression de la France coloniale.
Si tu veux, Nasser, là, c'est quand même, l'Algérie est mise entre parenthèses d'une certaine façon. Il se réveille. C'est ce qui prouve quand même que les politiques d'assimilation des indigènes colonisés, s'il y a quelqu'un qui démontre le contraire, c'est bien Mohamed Tazrous qui fait le chemin inverse. C'est-à-dire, il s'assimile et il redevient indigène. D'où la déindigénisation qu'a utilisé Sadek, ce qui est pour le moins extraordinaire. Il prend petit à petit conscience. Je pense que son voyage en Algérie, en 1953, et c'est Jacques Fournier que Sadek m'avait présenté, son beau-fils, qui le dit dans une conférence. C'est-à-dire qu'il a dit, quand il est revenu, il ne nous parlait pas beaucoup de ça. Il a dit, il est parti en Algérie en 1953 et je l'ai vu profondément déçu. Mais il y a quelque chose encore qui l'a déçu davantage, c'est que le statut de 1947, soi-disant l'égalité, il a vu que c'était de la falsification, de l'illusion, des illusions perdues, comme dirait Balzac. Et donc, il a petit à petit compris son cheminement. Et donc, il a petit à petit compris que finalement, l'impérialisme, parce qu'il insiste beaucoup sur la question de l'impérialisme, la colonisation, qui est aussi son credo important, il a fini par comprendre ce qu'est l'horreur de la colonisation et ce qu'elle a apporté, malgré que lui, marié à une Française, des enfants dont il prénomme et qui ont des prénoms français. C'est quand même un indicateur pour un sociologue de quelque chose presque qui relève de l'assimilation, puisque l'assimilation, c'est pratiquement se défaire des habits de tout ce qui fait de vous l'étrange étranger.
Et d'ailleurs, on ne le rappellera jamais assez, c'est que le mot assimilation, c'est un mot inventé par la colonisation.
Oui, bien sûr.
On en parle beaucoup aujourd'hui avec la préférence nationale, avec les histoires de droit du sol, etc. Mais c'est un concept qui n'est pas républicain et qui n'est pas dans les indépendances. Dans l'ordre colonial.
Oui, l'ordre colonial, mais à ceci près que la politique assimilationniste de la colonisation n'a pas abouti, parce que c'est un leurre. On ne peut pas transformer des indigènes en Français alors qu'on les considérait
comme des inférieurs. C'est impossible. C'est l'esclavage.
Déjà, dès le départ, la colonisation en elle-même porte les germes du fait que l'assimilation est impossible. Parce qu'il y a un occupant, un occupé, un dominant et un dominé, un exploiteur et un exploité.
Mohamed Tazrout, c'est un berbère. Oui. Il est né dans le cœur de la Berbérie, de la Kabylie, à Zazga. Et on sait très bien que les Amazirs, que ce soit dans les Aurès, que ce soit chez les Touaregs, etc., quand ils sont élevés dans un sentiment profond, ils refusent l'injustice, ils refusent la soumission, ils sont pas soumis. Et ça, c'est l'ADN des enfants amazirs et des enfants algériens. En tout cas, on le verra après dans les différents combats, l'Algérie, c'est aussi le théâtre, le pays de la radicalité. On n'accepte pas l'injustice.
C'est de désillusion, et puis il prend donc conscience que la France colonise, la France utilise des méthodes pour le moins qui la déshonorent. Du coup, Mohamed Tazrout retourne sa plume dans le sens contraire de ce qui était, tout en gardant sa démarche de savant.
Voilà. À tout de suite.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Mohamed Tazrout, qui est notre invité dans les grands témoins, et on le refait vivre grâce à Hassan Zerraoui, chercheur au CNRS, sociologue, et Sader Sellam, écrivain, biographe, islamologue,
historien,
bien sûr. Et on a tant besoin d'histoire. Ouais. Alors, vous avez, je disais au début de l'émission que vous avez préfacé l'Algérie de demain, où Mohamed Tazrout préfigure, configure ce que doit être l'Algérie indépendante. Et ça, je le recommande vraiment à tous nos auditeurs, parce que là, ils vont y trouver les préceptes et les fondements de ce qu'aurait pu être l'Algérie indépendante. Il parle de la démocratie, ouais, il parle d'une société de mixité, ouais, il parle des médias, il parle de la liberté médiatique, oui, oui, il en parle dedans. Et il parle aussi de la démocratie internationale de l'Algérie libre, ouais, il parle du racisme colonial, comment ce racisme était sélectionnel, comment, ouais, voilà. Et de but en blanc à travers ce racisme, il a écrit ce manifeste contre le racisme que vous venez de préfacer. Parlez-nous de ce manifeste, Sadr Salam.
Alors, c'est le dernier livre imprimé de Tazrout qui résume à peu près toute son œuvre, même celle qui ne concerne pas la décolonisation. Parce que, en tant que philosophe de l'histoire et historien des civilisations, il avait des conclusions sur la naissance, le développement et le déclin des civilisations. Le Congrès des civilisés, il a publié 5 volumes. Mais auparavant, il avait écrit « Les éducateurs sociaux de l'Allemagne moderne ». C'est résumé en 3 volumes de toute la philosophie allemande, où il rend pratiquement Napoléon responsable du nazisme. Parce que le nationalisme allemand a été une réaction aux conquêtes napoléoniennes.
Bien sûr.
Et l'allemand était une langue vernaculaire, on l'a développée pour refuser
le... Bismarck, c'est la réponse à Napoléon.
Oui, absolument. C'est clair. Et Fichte, sur le plan linguistique. Firta, comme ils disent. Et sa conclusion à lui, il termine par Hitler. Il a un chapitre sur Hitler. Il a dit, Hitler, c'est pas une nouveauté dans le langage, parce qu'il y a une violence dans le discours nationaliste allemand depuis la création de l'unité allemande. Et après, il a utilisé tous ces concepts pour expliquer la colonisation, décolonisation, et puis pour faire des propositions sur une Algérie indépendante. Et lui, comme tout le monde, croyait et souhaitait que les Français d'Algérie restent en Algérie. Mmh. Il dit, c'est une sorte, c'est le sel de la terre, comme on dit. J'aurais pu... alors, en 60, il ne pouvait pas prévoir le départ. Personne ne le prévoyait. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque tête de chapitre, il met, par exemple, démocratie, mais il met en arabe, entre parenthèses, le mot arabe, shura. Le Sha'ban, deux peuples, c'est avec l'air de dire que dans la tradition locale, on trouve un fondement à la démocratie. C'est pas seulement quelque chose d'importé à la Atatürk, constitution française, plaquée sur des situations différentes.
C'est extraordinaire ce que vous êtes en train de dire.
Absolument.
Parce que
tous les chapitres.
C'est ce que tout un courant de pensée actuel et même post-indépendant a voulu défendre en disant que pourquoi aller chercher des modèles X, Y ou Z alors que nous, dans notre terroir, dans notre tradition amazigh africaine, nous avons déjà les ingrédients.
Il parle de la Jamaa berbère, mais il parle aussi du droit public musulman, de la consultation, le pouvoir doit être légitime.
Du droit coutumier.
Aussi, oui. Il parle du Qanoun berbère, oui.
Oui, et Karl Marx a passé, je crois, une quinzaine de jours, je crois que c'était dans le Jurjura, où il a mis à l'épreuve un peu le Tajmar, les Arches, etc., etc. Donc,
il y a non seulement ça, mais il a une connaissance de la géographie. Il dit la forêt de cèdre de Zenit al-Had, par exemple. Qui est célèbre, parce qu'il a enseigné un an, et il dit, il faut planter des arbres, il faut multiplier les forêts pour... comme Malik ibn Nabi, il craignait l'avancée du désert par la déforestation.
Malik ibn Nabi, d'ailleurs, qui a des... Et vous le citez, hein, parce que vous adorez Malik ibn Nabi, Malik ibn Nabi qui parle de Mohamed Tazrout en termes élogieux.
Absolument. Mais de manière très ironique. Parce qu'il y avait l'union des écrivains algériens qui dépendait du parti unique, et il a dit, c'est très curieux, il y manque le plus intéressant, c'est Mohamed Tazrout, c'est la preuve que c'est un honnête homme, sinon on ne fait pas partie.
Et puis, et quand vous parlez de Malik ibn Nabi au sujet de Mohamed Tazrout, quand Malik ibn Nabi d'une certaine façon adoube Mohamed Tazrout, il vous dites, ils avaient tous les deux une hostilité commune au système colonial.
Absolument.
C'est ce que vous dites dans la préface.
Oui, parce que si on remet... Ben Nabi était issu de la médersa d'État, où il n'y avait que des indigènes, qui étudiaient le droit musulman, la langue arabe. Et lui, il était issu de cette école normale qui avait été discriminatoire avant, parce qu'il y avait des élites avant l'arrivée des Français qui ont été dispersées par la conquête, et une certaine mauvaise conscience coloniale voulait reconstituer les élites par le biais de ces deux établissements.
Arsène Jeraoui, il y a une cohérence dans l'évolution de Mohamed Tazrout. Vous allez nous parler du manifeste contre le racisme, à laquelle vous avez un peu de distance vis-à-vis de ce tour.
Oui, non,
mais je vous pose la question. En 59, il commet ce livre, Essai génétique sur la race, les peuples, les nations, la démocratie. En 59. En 60, il sort L'Algérie de demain. En 61, L'histoire politique de l'Afrique du Nord. Et en 63, Le manifeste contre le racisme. Il y a une évolution logique là-dedans.
Oui, il y a une évolution logique, effectivement. Sa prise de position, sa pensée a évolué. Et du coup, il prend conscience d'un certain nombre de faits historiques avérés. Et à partir de là, effectivement, l'Algérie de demain, pour revenir à l'Algérie de demain, c'est quelque chose d'assez intéressant, parce que on peut maintenant, on refait pas l'histoire. A posteriori, si les pieds noirs, si l'OAS n'avait pas détruit tout ce qui restait dans le de vivre en commun, le vivre ensemble, peut-être que les pieds noirs seraient restés un peu à l'exemple de l'Afrique du Sud, où pourtant l'apartheid a été très très loin, les pieds noirs auraient pu rester. Et Mohamed Tazrout a ceci d'original, de particulier, c'est qu'il était pour le pluralisme à la fois culturel, ethnique et politique, et culturel, donc démocratique. Et là, effectivement, il fait un certain nombre de propositions pertinentes sur la question dans l'Algérie de demain, très pertinente. Après, effectivement, pour arriver, bon, il y a l'histoire de l'Afrique du Nord, pour arriver au manifeste contre le racisme, bien sûr, moi, quand je le lis, je m'attendais comme sociologue, parce que j'ai publié un article « Race et racisme » dans l'Annuaire de l'Afrique du Nord. J'ai connu, comment elle s'appelle, Pétonné, je ne me rappelle plus de son prénom, mais qui était spécialiste du racisme, ici, en France, j'ai connu Siboni, je connais un certain nombre de spécialistes de Taguieff du racisme en France, et surtout l'opus de Lévi-Strauss dont vous parliez, effectivement en 52.
Lévi-Strauss, comme Mohamed Tazrout, réfute tout fondement scientifique à l'idée de race. Il n'y a qu'une seule race, la race humaine.
Ils se rejoignent sur le fait que dans Lévi-Strauss, donc dans Race, histoire, paru en 52, à la suite d'une série d'articles, en fait, commandés par l'UNESCO, dont faisait partie cet ouvrage de Lévi-Strauss. Ce qu'on appelle le relativisme culturel, dit qu'il n'y a pas de culture supérieure ou de culture inférieure. Il écrit même, il n'y a pas de peuple enfant. Et du coup, il dit, toutes les cultures sont différentes, mais elles se valent. Elles ne se valent pas parce que, de façon mathématique, mais elles se valent parce qu'elles apportent de plus, elles sont plus complémentaires qu'antagonistes ou antagoniques ou plutôt séparées. Donc, Mohamed Tazrout va un peu sur cette ligne dans le manifeste contre le racisme. C'est certes, c'est pas un ouvrage scientifique et je pense qu'il avait une intuition juste quand il a voulu l'intituler contre le racisme. Mais contre le racisme, ça ne serait pas vendu à Dussubury, son éditeur. Il a dit donc, bon, mieux le manifeste. Et manifeste, et là, Mohamed Tazrout prend sa plume et il dit, il parle de l'être en général, de l'homme, de ce qu'il distingue de l'animal, de ce qu'il appelle les trois races, c'est-à-dire les choses, les animaux, et puis tout ce qui est vivant, et puis les choses qui ne sont pas vivantes ou sont longtemps, les choses ont évolué, et surtout, donc la race humaine, elle est une et indivisible. Et du coup, il rejoint les théories, effectivement, même actuelles, grâce au progrès de la génétique. On sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de race supérieure ou de race inférieure, qu'il n'y a qu'une une race humaine, il y a certes des couleurs différentes, des cheveux différents. On a essayé, les théoriciens du racisme comme Gobineau, que cite qu'une fois, si mes souvenirs sont bons, dans son livre. Moi, je m'attendais, je dis, tiens, Mondazot va se pencher, qui est donc germaniste, sur Gobineau, qui est considéré comme l'un des fondateurs des théories raciales. Mais là, en tout cas, il prend sa plume, il dit donc l'être humain se distingue des autres races chosifiées. Et du coup, il est différent. Mais le raciste, lui, continue de considérer comme l'être humain comme celui qui se réfère à, presque à l'animalité de celui qu'il considère comme racisé, comme inférieur, etc. Il lui prête, d'ailleurs, pourquoi aujourd'hui, pour revenir à une actualité très pertinente dans le monde du sport, des gens qui osent, de façon inouïe, incroyable, mais condamnable, fermement, de faire les singes dans les stades. Or, Mohamed Azraoui s'élève contre ce type d'interprétation des racistes.
C'est un problème d'éducation.
Oui, oui, bien sûr, il le dit.
Moi, j'ai une formule. Oui. Le raciste, c'est le refus de l'autre.
Oui.
Il refuse l'autre en oubliant que lui-même est un autre.
Oui, oui.
C'est ça fondamentalement.
Mais il y a
chose.
Quand même des théoriciens qui sont moins idiots que ce que décrit Tazrout.
Alors, le manifeste contre le racisme qui est lié à la colonisation, qui est lié à l'État colonial, que Tazrout, au bout du compte, donc, a combattu, il s'est désindigénisé, il a rejoint le FLN, etc. Est-ce que c'est son dernier livre? Il a pas, parce qu'après, il ne sort plus rien. Est-ce qu'avec ça, il parachève son œuvre? Comment vous situez?
Il a laissé une traduction manuscrite du Coran.
Oui, c'est ça.
Et c'est quand même un signe. Comment se t'assimiler.
Qu'il a dû commencer quand même des années avant, je pense.
Il cite
traduit
assez souvent
pas le Coran en 6 mois.
Oui, il cite assez souvent, mais à Tanger, il n'a pas. Fournier m'a dit qu'il habitait dans un hôtel, il n'avait pas de bibliothèque. Il a laissé tous ses livres à Gagny ici. Et peut-être qu'il avait amené un dictionnaire.
Il nous reste quelques minutes,
mais
tous les deux.
Il faut m'éditer pourquoi il a fini son œuvre. Par le Coran. Ça, c'est un message à ceux qui prescrivent l'assimilation totale tout de suite, tous les soirs à la télévision. Il faut qu'ils sachent que le musulman reste attaché au Coran. Et il met en avant l'universalité du Coran.
Il reste attaché à la parole de Dieu.
Lui, il est reconnaissant à la culture européenne qui lui doit tout.
Qui est une arme.
Il dit, moi, je pratique le don et le contre-don. Vous m'avez donné une culture précieuse qui m'a permis d'évoluer, mais je vous apporte quelque chose que vous ignorez, c'est les valeurs universelles du Coran. C'est ça son message. Or, ce manuscrit a une histoire. Fournier m'a dit, je suis parti avec ma femme à Alger, en 1975, donc un an et demi après sa mort, dans un restaurant des hauteurs d'Alger, il y a quelqu'un qui tendait l'oreille, il a entendu parler du manuscrit, il leur a dit, moi je suis du ministère de la Culture, donnez-moi ce manuscrit, je le publie.
Okay.
Et il le prend sans donner son nom et il l'a enterré. Mon hypothèse, c'est qu'on, c'est comme on l'a fait avec Harkoun, on a dit pourquoi il est enterré au Maroc. On ne voulait pas parler de quelqu'un qui a choisi de mourir au Maroc. Et on a, heureusement qu'il y a un autre exemplaire chez quelqu'un qui l'a vu 3 mois avant sa mort et qu'on a retrouvé à Alger. J'espère que, quelle que soit son imperfection, il mérite d'être publié.
Bien sûr.
Parce que ça fait partie de l'histoire intellectuelle de l'islam en France et de l'islam intellectuel de l'Algérie. Et les jeunes musulmans dont on redoute la radicalisation, il faut leur proposer Tazrout comme modèle. C'est l'ijtihad à la place du djihad. C'est-à-dire par la pensée, par l'étude, par les moyens de l'intelligence.
Un mot, il faut que Tazrout revienne dans l'actualité et qu'il soit enseigné dans toutes les écoles de France et de Navarre, mais pas que, dans les écoles d'Afrique du Nord, d'Afrique noire, d'Asie, d'Europe, des États-Unis. Tazrout doit être enseigné dans toutes les écoles. Oui, d'accord.
Oui, bien sûr. Surtout d'abord que les lectrices et lecteurs le découvrent. Et je pense que Tazrout, dans le manifeste contre le racisme, en sent un homme en colère. C'est-à-dire qu'il a cru à un idéal et il se rend compte que cet idéal, c'était de l'illusion.
Magnifique, magnifique conclusion. Merci Hassan Zerraoui. Merci Sadar Salam. Voilà. Et à très bientôt.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.